Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Fin de semaine du... Dernière fin de semaine d'octobre. Ici Alex Bergeron et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver cette semaine pour parler... On parlait Canada. Il y avait quand même des élections dans les autres provinces, notamment la fin de semaine dernière en Colombie-Britannique, où toujours aucun gagnant n'a été prononcé. Et en début de semaine, c'était le Nouveau-Brunswick qui montrait la porte au premier ministre le plus détesté des 10 premiers ministres des provinces et 3 des territoires. Et c'était sans équivoque. On a également un peu de cinéma. On va avoir vu le très étrange Rumeur, non pas la série télé, mais bien le film mettant en vedette Roy Dupuis. Mais tout d'abord, parce que c'était un 10e anniversaire qui a été marquant, qui évidemment on a tendance à un peu oublier toujours un peu avec le temps. Et moi-même, j'ai été surpris de découvrir qu'il y a 10 ans, le 22 octobre 2014, lorsqu'il y avait eu une chasse à l'homme dans les rues d'Ottawa qui avait fait comme victime caporal Nathan Cirillo sur la tombe du soldat inconnu, et que son assaillant avait réussi à pénétrer à l'intérieur du Parlement canadien, qui aurait pu avoir des conséquences extrêmement plus graves si ça n'avait pas été du fait que, justement, le gars en question qui est rentré au Parlement n'avait pas pris le temps d'étudier le Parlement canadien. Il aurait pu avoir beaucoup plus de victimes. Dans le récit de ces événements-là, lorsqu'il est entré au Parlement, les images du Globe and Mail, notamment, qui ont circulé abondamment, on ne voyait pas nécessairement le tireur, mais on entendait, selon plusieurs témoins, la cinquantaine de coups de feu à l'intérieur même du Grand Hall du Parlement canadien. Et parce que, justement, le tireur ne savait pas où il devait aller pour... On sait pas trop tuer qui, parce que vraisemblablement, il s'en allait tuer des gens. Il a opté pour la plus belle porte, comme on l'a décrit. C'est la porte de la grande bibliothèque des archives canadiennes. Donc... Par chance, cette grande porte-là n'était pas celle du Salon Rouge d'un premier temps. Salon Rouge qui, par chance, entre guillemets, cette journée-là n'était pas encore habité, puisque la période des questions se déroule l'après-midi. Par contre, entre la porte de gauche et la porte de droite, il y avait, oui, la bibliothèque, mais l'autre porte menait sur le caucus conservateur, alors dirigé par Stephen Harper. Et au dire de plusieurs anciens conservateurs qui étaient là cette journée-là, le tireur rentre par la bonne porte, entre guillemets, entre dans la salle de réunion du caucus conservateur et a Stephen Harper en face de lui. On ouvre la porte, Stephen Harper est dans le milieu de la pièce, debout, devant tout le monde, lorsque les événements se produisent. La tournure des événements aurait pu être complètement différente. Et comme je le disais, et j'essayais de me rappeler cette semaine pourquoi cet événement-là avait été pas aussi marquant, mais tu sais, avait marqué quand même les esprits. Et même moi, deux jours plus tard, lors de l'épisode numéro 7 du Réchaud, le 24 octobre 2014, donc deux jours après les événements, moi-même, je dois dire que j'étais resté marqué par cet événement-là. J'étais en cours cet après-midi-là, l'après-midi du mercredi 22 octobre, j'étais en cours et à cette époque-là, on avait encore la possibilité sur nos tablettes de regarder la télé en direct. Donc, j'avais les images de RDI, de ce qui se passait, de parce qu'évidemment, il y avait des notifications qui étaient envoyées sur les téléphones de tuerie en cours du côté d'Ottawa, etc. Et notamment, 10 ans plus tard, ben c'est justement c'est toutes ces mesures, ces restrictions-là, ces mesures de sécurité-là qui ont dû être renforcées parce que ce n'est pas normal. Il y a 10 ans, en 2014, on est 13 ans après le 11 septembre 2001 et quelqu'un avec une arme a pu entrer facilement jusqu'à se rendre à la grande bibliothèque du Parlement avant de finalement être abattu, mais il a pu se rendre extrêmement loin. Aujourd'hui, on passe pas à la limite la porte d'entrée si on n'est pas attendu ou en tout cas, ou si on se trompe de porte d'entrée ou qu'on n'est pas attendu, on va se faire revirer de bord. Il y a un ancien manifestant des camionneurs qui avait harcelé notamment Jack Mitzing et Daniel Thibault de Radio-Canada pendant la pandémie en se filmant, en voulant procéder à l'arrestation citoyenne de Jack Mitzing et de Daniel Thibault pendant la COVID. Donc, on revient en 2020. Qui, le 22 octobre 2024, a tenté de rentrer au Parlement pour arrêter Justin Trudeau. Donc, pendant qu'il y avait la commémoration du 10e anniversaire de l'assassinat de du caporal Nathan Cirillo, tu avais ce gars-là, en parfait idiot, qui essayait de rentrer dans le Parlement en disant « J'ai le droit de passer, c'est un lieu public, je veux juste rentrer. » Quand son but, semble-t-il, était d'aller procéder à l'arrestation citoyenne de Justin Trudeau. Surprise, la sécurité ne l'a pas laissé passer. Il transportait en plus un sac à dos dans ses mains. Qu'est-ce qu'il y avait dans son sac? Il n'y avait pas d'armes. En tout cas, pas supposé. Mais il n'a même pas réussi à passer une seule porte. Il était au moins 5 gardien de sécurité à l'empêcher de passer et la police d'Ottawa est allée le chercher. Pour donner un exemple que il y a 10 ans, ce gars-là aurait pu juste rentrer tout simplement et se promener dans le Parlement. Donc oui, il y a ça qui a été renforcé. Mais voilà, il y avait surtout l'événement qui précédait cet événement-là. Petit extrait de l'émission numéro 7, justement, où on avait relaté les événements autour du caporal Cirillo. C'était l'une des personnes qui lui était venue en aide à ce moment-là, avant bon, qu'il décède, évidemment, mais on avait l'historique de ce qui s'était passé cette journée-là, telle que rapportée à l'époque par l'une des intervenantes qui est venue, qui a tenté de porter aide, qui a tenté de porter secours à Nathan Cirillo, extrait de, du réchaud numéro 7 du 24 octobre 2014.
Vendredi 24 octobre 2014, il est 11h04. Voici la 7e édition du Réchaud qui débute à l'instant. Bon midi, chers auditeurs du 88.3 CFAK FM. Mon nom est Alex Baillargeon et je vous souhaite la bienvenue pour cette toute nouvelle émission du Réchaud de ce jour. Content de vous retrouver avec la très grosse semaine que nous avons eue dans l'actualité du pays, évidemment. Mais pour tout de suite, on revient bon sur les événements de cette semaine. Des cas très sérieux qui sont arrivés du côté de Saint-Jean-sur-le-Richelieu et d'Ottawa. Bon, au départ, je voulais faire le résumé des événements un peu parce qu'on en a parlé et beaucoup cette semaine. C'est vraiment l'incontournable de l'actualité. Mais en faisant la préparation de l'émission hier, je suis tombé par hasard sur le récit de celle qui est venue en aide au caporal Nathan Frank Cirillo, qui est décédé après s'être fait abattu dans son dos, donc il l'a jamais vu venir. Donc l'avocate Barbara Winters, je vais vous en faire le récit dans le fond. Donc l'avocate Barbara Winters se dirigeait à une réunion près de son bureau à l'Agence de revenus du Canada mercredi quand elle est passée devant le monument commémoratif de guerre du Canada et en interrompant sa marche, elle avait décidé de prendre quelques photos des deux gardes d'honneur qui étaient en poste mercredi matin. Donc quelques instants plus tard, après être passée devant les bureaux de Poste Canada au coin des rues Elgin et Sparks, elle a entendu quatre coups de feu. Pour Mme Winters, une ancienne membre de la Réserve navale du Canada, le son qu'elle venait d'entendre ne faisait aucun doute. Elle s'est retournée et a vu des gens se pencher sur la rue Elgin. Elle a commencé à courir, non pas vers un abri, mais plutôt vers le bruit et le soldat blessé au pied du monument. Mme Winters avait en tête l'attaque contre les deux soldats deux jours plus tôt à Saint-Jean-sur-le-Richelieu et a su instinctivement que les membres de la garde d'honneur venaient d'être ciblés. Quand elle a atteint le monument, Mme Winters avait quatre personnes penchées au-dessus du soldat blessé. Elle a laissé tomber sa sacoche et sa valise sur les marches et a commencé à aider les gens. Margaret Lurhy, une infirmière qui se dirigeait vers son travail à l'hôpital Élisabeth-Bruyère, applique de la pression déjà avec ses mains sur la blessure du caporal Cirillo afin d'arrêter le saignement. Deux autres soldats entouraient le caporal Cirillo, dont un qui lui parlait. « tu vas bien mon ami », disait-il au blessé, « tu respires, continue à respirer ». Un autre passant s'est arrêté au pied du caporal Cirillo. Mme Winters, qui cumule 17 ans de service dans la réserve navale comme médecin, a demandé à l'homme de lever les pieds du blessé. Elle a desserré sa cravate à ce moment-là. Le groupe a alors appelé une ambulance et la police. Mme Winters a commencé à prier. Elle s'est mise à parler au caporal. Il était encore conscient et ses yeux étaient ouverts et il regardait droit devant lui. Elle avait l'impression qu'il pouvait l'entendre. Elle lui répétait « Tu es un homme bien, tu es un homme brave ». Et puis quelqu'un, Mme Winters, je ne me souviens pas qui, a dit que le soldat venait de cesser de respirer. Ils ont commencé à chercher son pouls en touchant son cou, l'autre, son poignet. Par hasard, toutes les personnes qui étaient présentes avaient une formation médicale ou en premier soin. Mme Winters a dit au caporal de penser à ce qu'il faisait, qu'il était de garde devant le monument commémoratif de guerre du Canada. Elle lui a dit qu'il était un homme bien et qu'il avait accompli son devoir. Elle n'a pas vu d'alliance à sa main gauche et ne savait pas si elle était mariée. Elle a donc répété les mêmes paroles. « Ta famille t'aime, tes parents sont fiers de toi, ta famille militaire t'aime, tous les gens ici travaillent très fort pour toi, tout le monde t'aime. » La sirène a signalé l'arrivée des ambulanciers. Le soldat qui se trouvait à la tête du caporal Cirillo s'est levé pour leur donner accès aux blessés. Mme Winters a pris la relève au bouche à bouche. Malgré tout, Nathan Cirillo est mort dans les bras des personnes qui ont tenté pour le maintenir en vie. Mme Winters ne croit pas qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire en courant vers le bruit des coups de feu. Elle a été ébranlée par l'expérience, mais elle a louangé le travail de ceux qui l'ont aidée. Personne n'a été hystérique, tout le monde est resté très calme. Nous étions tous concentrés sur le soldat afin de l'aider. Elle a dit admirer le courage des autres personnes qui ont tenté de réanimer le caporal Cirillo, malgré les possibilités que le tireur soit encore à proximité à ce moment-là. Évidemment, on ne savait aucun détail. Et Mme Winters dit avoir fait ce que la majorité des gens auraient fait dans de pareilles circonstances. Quand vous êtes près de la mort, vous devez entendre à quel point vous êtes aimé. Le caporal Nathan Frank Cirillo avait 24 ans. Il était père monoparental d'un petit garçon de 5 ans. Et comme je le disais en introduction, il a été abattu de dos, froidement, par celui qui a été abattu quelques minutes plus tard au Parlement.
L'homme qui était à ses jambes a été rencontré 10 ans plus tard par Daniel Thibault. C'était Martin Magnan qui se rendait, lui, à une réunion près du monument commémoratif de guerre situé à quelques centaines de mètres du Parlement. Il a entendu, lui aussi, les coups de feu et son instinct lui a dit de courir vers le monument d'où les détonations semblaient provenir. Et c'est là qu'il a aperçu l'homme en uniforme couché au sol, qui avait été atteint de projectiles. Il était assisté, voilà, bon, on le disait, de toutes les autres personnes, ainsi que d'une infirmière. Magnan qui commence des manœuvres de réanimation sur le caporal avant que la police et les ambulanciers n'arrivent sur les lieux. C'est lui qui serre la main gauche du militaire, lui tient les jambes élevées, conformément aux indications des premiers répondants. Donc voilà, on a pu connaître un peu plus sur les gens qui ont entouré les derniers instants de Nathan Cirillo, qui gardait pour la toute première fois le monument commémoratif. Et puis, pour les militaires, c'est un grand honneur de garder ce monument-là, étant donné que, en plus, on est au mois d'octobre, quasiment sur le bord du jour du souvenir. Fait qu'il y avait comme une signification supplémentaire et malheureusement, 24 ans, il n'a eu aucune chance à cause de ça. Et son petit garçon également qui était là aux funérailles à cette époque-là, aujourd'hui, qui a 15 ans, 16 ans peut-être. Terrible. Les événements auxquels on faisait référence à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, c'est Patrice Vincent, l'adjudant Patrice Vincent, qui lui, 2 jours avant les événements d'Ottawa à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, s'était fait foncer dessus par une voiture parce qu'il portait un uniforme militaire, tout simplement. On y a juste rentré dedans parce qu'il était en uniforme. Il n'y avait pas d'autre raison. Il a été happé intentionnellement 2 jours plus tôt à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Donc, c'est pour ça que au départ, la semaine commençait avec cet événement-là qui était extrêmement perturbant et étrange, et la semaine s'est poursuivie avec cet attentat-là qu'il y a eu au Parlement d'Ottawa qui a laissé, bon, dans ce cas-ci, le caporal Nathan Cirillo, puisqu'il avait été abattu lorsqu'il gardait le monument le 22 octobre 2014. Donc, voilà pour ça. Voilà pour ces événements-là. En tout cas, c'était les 10 ans cette année. Voilà où on en est aujourd'hui avec la sécurité canadienne. C'est pas encore tout à fait au point, notamment, ne serait-ce que justement, des exemples de chefs de parti ou d'autres ministres qui se font harceler par des gens, se faisant courir après dans la rue, qui pourraient encore plus mal finir. Ils n'ont pas de garde de sécurité comme, par exemple, les ministres québécois en ont tous un. Canada, c'est beaucoup plus lousse. Ils marchent dans les rues et peuvent se faire harceler par des gens qui veulent les arrêter civilement. Peu importe que, en fait, qu'il n'y a aucune valeur, évidemment. Mais voilà, question de sécurité, surtout dans le monde dans lequel on est rendu. Sécurité, ça ne ferait pas de tort à l'occasion. On s'arrête là-dessus. Courte pause, retour, la suite de ce deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Commande de bord sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de Chiz qu'on vient d'entendre en musique, tranquillement, pas vite. Comme je le disais, on parle d'élections. On parle des élections qui avaient lieu en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick. Débutons avec la Colombie-Britannique, puisque ça a été et c'est encore extrêmement serré entre plusieurs lieux, plusieurs circonscriptions. 11 circonscriptions serait le nombre où on n'est pas capable de savoir s'il y a vraiment une victoire entre le candidat du NPD ou le candidat conservateur. Faudra attendre encore jusqu'à dimanche soir, dans le meilleur des cas, pour peut-être enfin connaître qui sera le nouveau parti à la tête de la Colombie-Britannique. En circonscription, où c'est encore beaucoup trop serré pour avoir un résultat clair, ce qui fait en sorte quand même que c'est ce qui fait la différence, puisque pour l'instant, 46 circonscriptions seraient détenues par le NPD et 45 seraient détenues par les conservateurs, d'où pourquoi c'est extrêmement serré et qu'on est en comptage depuis tout ce temps. Il faut dire aussi que pour le comptage des votes, on a oublié de compter le vote par anticipation et le vote postal dans certaines circonscriptions, ce qui fait en sorte qu'il y a des résultats qui ne sont pas définitifs dans ce cas-ci. Et c'est une erreur grave dans ce cas-ci d'élection Colombie-Britannique, on peut le dire, parce que de ne pas avoir pensé à compter le vote par anticipation, c'est complètement... ça n'a pas de sens de ne pas l'avoir fait, du moins de l'avoir fait avant, en ne peut-être se disant « oh, ça ne sera pas serré ». Effectivement, ça l'est encore. Une heure, heure du Pacifique, les néo-démocrates menaient à ce moment-là 46-45, et c'est toujours le compte pour lequel on est. Mais ça a été interrompu avant de reprendre le lendemain, puisque 97,72% des boîtes de vote avaient été comptabilisées, rendues à tard ou à tôt le matin, tout dépendamment des gens. Aucun des deux partis n'a donc atteint le 47 sièges nécessaires pour former un gouvernement majoritaire, puisqu'on est à 1 de passer pour le NPD, on est à 2 de passer pour les conservateurs. Ces deux petits sièges-là sont allés du côté du Parti vert. D'où pourquoi on peut dire que le Parti vert a la balance. Mon Dieu, pardon, les conservateurs, le Parti vert ont la balance du pouvoir, puisque tout dépendamment à qui ils accorderont leur soutien, la balance va tanguer d'un bord ou de l'autre, puisque c'est tellement serré entre les deux formations. Pour la petite histoire, avant le déclenchement des élections, il y avait le BC United. Ce parti-là était l'ancien Parti libéral qui avait décidé de changer de nom de marque pour pouvoir peut-être espérer conserver le pouvoir ou du moins faire un meilleur score en n'étant pas associé à Justin Trudeau et le Parti libéral fédéral. Ce qu'on disait pouvait nuire à la marque colombie-britannicienne. La marque britannique. On fait difficilement la différence des fois entre le Parti fédéral et le Parti provincial, contrairement par exemple au Québec où il y a bien une différence entre les deux partis, même s'ils ont le même nom et la même affiliation. On a pensé voir la même chose au Nouveau-Brunswick, mais finalement, ça ne s'est pas avéré. Du côté de la Colombie-Britannique, voilà, la marque libérale est entachée, donc on a décidé de changer ça pour le BC United. Et juste avant le déclenchement des élections, le même BC United a décidé de ne plus se présenter du tout, faisant en sorte que si des candidats du BU voulaient se présenter, ils devaient se présenter dans la grande famille conservatrice. Donc, le Parti conservateur en Colombie-Britannique à proprement parler, qui faisait dans les 2, 3, 4 % un peu comme le Parti conservateur du Québec, aujourd'hui se ramasse avec 46,5 députés en avance, puisqu'il n'y avait pas d'option de la droite, entre guillemets, puisqu'historiquement, comme le NPD est extrêmement fort, comme la marque du NPD est extrêmement forte en Colombie-Britannique, on associe le NPD au parti de gauche, ce qui faisait en sorte que les libéraux et les conservateurs qui sont beaucoup plus à droite du côté britannique, ben dans ce cas-ci, ils s'étaient dit bon ben tant qu'à avoir à être la représentation de la droite, unissons-nous en étant le BC United. Mais voilà, la chicane a pogné, ce qui a fait en sorte qu'on s'est réfugié sous la marque conservatrice, ce qui fait également en sorte que beaucoup de gens sans farce, en Colombie-Britannique, ont voté pour les conservateurs de la Colombie-Britannique en pensant qu'ils étaient en train de voter contre Justin Trudeau, même si le Parti libéral n'était pas sur les bulletins de vote. Donc, c'est à ce point-là que les gens ont peut-être un peu mélangé toutes les cartes, puisque, bon, fédéral, le Parti conservateur fait quand même des chiffres intéressants en Colombie-Britannique, même s'il y a un petit bastion du NPD, notamment Jack Meeting, dans la Colombie-Britannique. Donc, ce mélange des genres-là a fait en sorte que, de toute façon, on veut une option de gauche, de droite. Colombie-Britannique a donné son verdict. On est à un siège entre la gauche et la droite, mais ça reste quand même extrêmement serré. Comme je disais, 11 circonscriptions où c'est des 90, 110, 200 voix qui séparent la première de la deuxième position. Donc, on est en recomptage dans toutes ces circonscriptions-là pour confirmer bel et bien les résultats et donc passer également par le vote postal et le vote par anticipation. En fait, surtout le vote postal, si je me souviens bien, qui n'avait pas été comptabilisé en ouvrant les premières boîtes. Mais voilà, donc c'est encore extrêmement serré. La semaine prochaine, on devrait finalement connaître qui sera le nouveau premier ministre de la Colombie-Britannique, soit le très étrange John Rostad du Parti conservateur qui voulait faire des procès contre ceux qui ont créé les vaccins, ou David Eby, le chef du nouveau Parti démocratique qui, je pense que c'est lui le premier ministre sortant. J'ai dit que c'était le BC United, mais il me semble que c'est plutôt David Eby. Je vérifie l'information. Au retour, avant de parler du Nouveau-Brunswick, vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Mort de rire, Radiant Baby qu'on vient d'entendre en musique sur un fade-out pour finir la piste. Donc, petite précision. Voilà, aux dernières élections, c'était bien le NPD qui était au pouvoir, mais avec John Horgan à sa tête, puisque c'est lui qui avait mené à la victoire du NPD en étant un gouvernement majoritaire à ce moment-là, jusqu'au déclenchement des élections qu'on vient de vivre, où maintenant il tombe minoritaire avec possibilité de perdre des sièges. Et c'est, comme je le disais bien, David Eby qui est devenu le nouveau chef en 2022. Dans le cas d'Organ, c'était des ennuis de santé, notamment des traitements contre son cancer de la gorge qui avait fait en sorte qu'il a dû quitter ses fonctions à ce moment-là de premier ministre de la Colombie-Britannique et chef du parti, chef du NPD. Revenons plus près de nous, du côté de la du Nouveau-Brunswick, où il y avait également élection provinciale cette semaine du côté Nouveau-Brunswickois, où s'affrontaient cette fois-ci les conservateurs et le Parti libéral notamment. Parti vert NPD sont dans la course, mais à des proportions bien évidemment moindres. Ce qui fait en sorte que Blaine Higgs demandait à obtenir un troisième mandat pour cette élection-ci, puisqu'il avait remporté une première fois le poste de premier ministre à la 58e législative en 2018. Voilà, en succédant à Brian Gallant du Parti libéral, puis avait été élu minoritaire à cette élection-là. La suivante, pendant la pandémie, il avait obtenu un gouvernement majoritaire et ça se terminait le 21 octobre dernier, puisque Susan Holt est devenue la toute première ministre du Nouveau-Brunswick du Parti libéral et faisait en sorte également qu'elle redevenait la première ministre à parler le français en 6 ans au Nouveau-Brunswick, le dernier étant Brian Gallant, puisque Blaine Higgs était un anti-francophone. En tout cas, c'était pas complètement dit, mais il a appartenu à plusieurs groupes qui haïssaient les francophones et, surprise, il ne se présentait pas non plus régulièrement en territoire acadien. Il était connu pour ne pas être particulièrement sympathique à la cause francophone, notamment avec des décisions d'éducation qui restreignaient les droits de ses concitoyens francophones dans la seule province officiellement bilingue où ils avaient un premier ministre unilingue anglophone. Ce qui faisait en sorte que à l'élection de cette semaine, Blenigs perdait 11 sièges pour tomber avec seulement 16 et 34,8% des intentions de vote, soit l'un des pires scores des au moins 30 dernières années, si c'est pas plus, pour le Parti conservateur au Nouveau-Brunswick. Et Susan Holt, elle, repart avec 48,6% des intentions de vote, une augmentation de 14 points par rapport à la dernière élection, ce qui lui donne 31 sièges alors que la majorité est à 25. Comme je le disais, dans le cas de Susan Holt, bilingue, ce qui fait en sorte que... Voilà, le hiatus de 6 ans et quelques d'avoir un premier ministre unilingue anglophone est enfin révolu. Sa première vidéo qui a été faite devant le Parlement néo-brunswickois était dans les deux langues. Elle a fait 2 versions et c'était dans un français qui se comprenait, non pas lu comme Blenigs l'était. Voilà, bon, les politiques de Blenigs ont fait énormément jaser. Au dernier sondage de tous les premiers ministres, il était le plus détesté au sens où le taux d'approbation de Blenigs flirtait avec le 25-30%. Et c'était depuis longtemps le premier ministre le moins aimé de sa province. Les résultats ont été plus rapides à obtenir du côté néo-brunswickois. Autour de ces 8h30 heure locale, on était déjà à avoir dévoilé la moitié des boîtes au Nouveau-Brunswick quand soudainement, la deuxième moitié a été rajoutée d'une shot. Complètement surprenant. Les conservateurs menaient à ce moment-là avec 2 ou 3 sièges d'avance. Mais oh, la tendance s'est renversée extrêmement rapidement puisque le Parti libéral s'est détaché extrêmement facilement de Blenigs. Comme on le disait, la pire défaite du Parti conservateur et pour un chef néo-brunswickois, c'était la plus grande catastrophe qui pouvait lui arriver. Ironiquement, Blenigs disait quelques jours auparavant que s'il perdait cette élection-ci, donc s'il perdait l'élection en question, c'est comme s'il n'avait rien fait pendant les 6 dernières années que son passage en tant que premier ministre ne vaudrait rien puisqu'il savait pertinemment que le gouvernement suivant allait renverser la plupart de ses décisions. Et c'est probablement ce qui va se passer avec le nouveau Parti libéral en place. Ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose parce que pour parler aux principaux intéressés, les néo-brunswickois n'étaient pas particulièrement contents non plus des décisions qui avaient été prises par le gouvernement conservateur qui, sans surprise, a décidé de tout couper les financements dans beaucoup de choses, ce qui faisait en sorte que beaucoup de personnes se retrouvaient un peu délaissées par le système, comme on a envie de dire, à preuve que Blenigs savait pertinemment lui-même qu'il n'allait pas l'emporter. Son rassemblement s'était fait dans un restaurant. En tant que chef d'un parti, ce n'était pas dans une grande salle, ce n'était pas non plus un grand déploiement, c'était dans une salle de restaurant où il a concédé la victoire. Ben, en fait, il n'y avait pas vraiment de possibilité de victoire, mais bon, il avait concédé la victoire à son adversaire en l'ayant téléphoné auparavant. Et c'était à un point tel que même dans sa circonscription, il n'a pas été réélu. Dans la circonscription de Quispamsea, il a lui-même perdu dans sa circonscription. Donc, même si son parti conservateur avait réussi à se à se maintenir. S'il avait réussi à trouver preneur, il aurait fallu qu'il se trouve une autre circonscription, qu'un de ses députés lui laisse la place, parce que même dans sa circonscription, même la mairesse de sa circonscription, la mairesse principale de la ville de Blennings, lui avait fait campagne contre lui en disant n'importe qui sauf Blennings. Si je me souviens bien, le chef intérimaire du NPD se présentait dans la circonscription de Blennings, mais évidemment, il ne l'a pas emporté. C'est le Parti libéral qui a gagné la circonscription, qui historiquement était techniquement un château fort conservateur, mais on voulait du changement au Nouveau-Brunswick. À preuve, le pourcentage de vote était un petit peu plus élevé. Et comme on le dit régulièrement dans ce genre, dans toute élection, si on veut un véritable changement de service, si on veut un changement dans la manière de faire ou un changement de gouvernement complètement, le pourcentage de vote est normalement plus élevé. Et dans ce cas-ci, l'épreuve des faits. Et on parlait également, donc on a eu une petite augmentation du pourcentage de vote que j'essaie de trouver tant bien que mal, mais bon, c'est plus difficile que prévu. Mais voilà, donc en tant que premier ministre sortant, il ne sera pas énormément regretté, malheureusement, peut-être pour lui. Mais voilà, dans ce cas-ci, ça n'a pas été particulièrement convaincant pour l'élection de 2024, où voilà, dans ce cas-ci, ça n'a pas été bon pour lui. Finalement, il y aurait une petite baisse de pourcentage de vote, mais c'est assez similaire à la dernière élection, mais reste quand même que Blennings a perdu 9 sièges, dont le sien, ce qui place les conservateurs qui étaient à 25 avec une majorité de 20, la majorité de 25, il avait 25 sièges, donc il est devenu premier ministre de justesse dans le gouvernement majoritaire. Il en a perdu 9, il finit à 16 en 2024. Le Parti libéral, qui était en jachère avec seulement 16 sièges, reprend du poil de la bête avec 31. Et le Parti vert, qui était à 3, en obtient 2. Cette élection-ci, il y a un candidat qui a malheureusement perdu son siège dans ce cas-ci. Le seul francophone, il n'était pas seulement francophone, mais en tout cas, le député francophone du Parti vert qui a perdu son siège, Kevin Arsenault, si je me souviens bien de son nom de famille. On s'arrête là-dessus, au retour, la conclusion de l'émission de cette semaine en allant au cinéma sur les ondes de CFAQ 88.3 et de Chiz 94.3. Les Kinkeds qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Bande annonce tout de suite d'un film très bizarre, rumeur présentement à l'affiche au cinéma, avec notamment Roy Dupuis dans le rôle de Justin Trudeau.
Alors ça, c'est une découverte.
C'est quoi au juste? Ça m'a l'air plutôt macabre.
Eh bien, ce que vous voyez s'appelle un homme des tourbières. Ça date de l'âge de fer.
Si vous regardez là, son pénis a été coupé, mais aussi suspendu à son cou.
C'est un homme, il n'y a pas de doute.
Regardez-nous. Les dirigeants de ces grandes nations réunies.
Mais on est aussi réunis pour émettre une déclaration provisoire concernant la crise actuelle, ne l'oublions pas.
Il est important de dire ce que l'on pense.
Oui, évidemment.
Les gens se tournent vers nous pour y voir plus clair.
Toute cette pression pèse lourd sur ses épaules. Tu ne peux même pas résoudre tous les problèmes du Canada.
Un verre, s'il vous plaît.
Oh !
Y a quelqu'un ?
Où est passé tout le monde ?
J'en sais rien.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
On fait face à une crise.
On le savait déjà.
Comment ça se fait que tu es couvert de boue ?
Il ressemblait à l'homme qu'on a déterré plus tôt.
Elle t'a attaqué !
C'était quoi ? Des terroristes ?
Ils se montraient menaçants.
Des manifestants.
C'est ce que je me suis dit en premier.
On a été abandonnés.
Je comprends vraiment rien. Personne ne va venir.
L'événement apocalyptique vient de se produire. C'est la fin tragique, mais méritée, de notre espèce.
On vous a troublé dans votre sommeil. Courez !
Tu as l'air tendu. tendu. Est-ce qu'un massage t'aiderait un peu?
Ça arrive à chaque fois qu'il boit.
J'aime les femmes fortes, mais j'aime beaucoup trop!
J'ai tendance à vouloir m'impliquer dans les drames.
L'Allemagne s'implique dans les drames?
C'est pas la première fois.
C'est quoi cet énorme cerveau?
Je dirais même que c'est le cerveau d'une femme.
C'est du charabia, ce qu'elle dit.
Bäraren av deras budskap.
Du suédois. Elle parle suédois, c'est ça.
Alors, ça s'appelle Rumeur, ça met en vedette, comme je le disais, Roy Dupuis dans le rôle du premier ministre du Canada, Maxime Laplace. On retrouve Kate Blanchett en tant que chancelière allemande, la chancelière Hilda, Charles Dance en tant que président Edison Walcott et Denis Ménochet en tant que Sylvain Broulez, le nouveau premier ministre de la France. La croisée des chemins entre comédie, horreur, feuilleton émouvant, rumeur suit les 7 dirigeants du G7 lors du sommet annuel, cette fois-ci en Allemagne, où ils tentent de rédiger une déclaration provisoire concernant une crise mondiale. Elle n'est jamais nommée. Grâce aux performances... ça, c'est pas une définition. Les chefs d'État, ces soi-disant dirigeants, deviennent des spectacles d'incompétence luttant contre des obstacles de plus en plus surréalistes dans les bois brumeux alors que la nuit tombe et qu'ils réalisent qu'ils sont soudainement seuls. Une satire de l'ineptitude politique qui saute sur les genres... des réalisateurs Guy Madin, Evan Johnson et Galen Johnson. Voyage au cœur de l'absurde du pouvoir et de l'échec institutionnel dans un monde qui brûle lentement. Donc, voilà. Essentiellement, c'est les dirigeants du G7 qui se ramassent en Allemagne, qui, font un genre de souper pour... travailler sur la déclaration commune des 7 puissances, puis on les abandonne. Pour quelle raison, c'est pas clair, mais on les laisse là. Et le monde brûle. Fait que voilà, parce qu'ils servent à rien. Essentiellement, c'est ça le message du film. Les politiciens ne servent à rien et mangent dans le bois pour pas vraiment de raison. Fait que tu sais... Essentiellement, c'est ça le film, c'est 7 humains un peu inutiles qui, dans une situation de danger, servent pas à grand-chose parce que les politiciens, ça sert à rien. Essentiellement, c'est un peu ça le message du film. C'est très bizarre. Ça le dit, comédie, horreur, feuilleton émouvant, il y a des genres de zombies à un moment donné. En tout cas, c'est pas clair c'est quoi les zombies en tant que tels, comme des zombies mous. Ils sont gélatineux. En tout cas, tout est un peu étrange. On l'entend dans la bande-annonce. Il y a un gros cerveau géant mané dans la forêt parce que il y a aussi des extraterrestres, on l'imagine, mais ils sont suédois, ces extraterrestres-là. Fait que, tu sais, tout est bizarre dans ce film-là. J'étais pas familier non plus avec les films de Guy Madin. Fait que semble-t-il que pour les fans aguerris de cinéma, ils vont peut-être y trouver un peu plus leur compte. Moi, dans ma tête, il y a peut-être des codes que j'avais pas. Les critiques sont bonnes. On donne 3 étoiles et demie, à peu près unanimement, un peu par tout le monde, parce que, justement, si on a vu peut-être les précédentes œuvres de Guy Madin, ben là, on sera complètement comblé. C'est très étrange. Le doublage est bizarre aussi. Je pense que Roy Dupuis se double lui-même. Et Roy Dupuis n'est pas un acteur de doublage, et ça paraît. Il y a plusieurs scènes que le texte est un peu étrange, mais là, je dis ça, puis peut-être c'est même pas lui qui se double lui-même. Fait que ça serait une coche plus drôle si c'est pas lui. Il y avait aussi Kevin Parent quand il jouait un détective avec Micheline Langteau d'une série... Canada-anglais, que les deux, c'était pas fort. Surtout Kevin Parent, qui est pas comédien, fait que qui se double lui-même en français alors qu'il parlait en anglais dans la série, c'est un peu étrange. Bon, dans ce cas-ci, Roy Dupuis est pas très, très bon non plus. Puis de toute façon, Kevin Parent, c'est pas un acteur. Il est trop occupé dans les bars. Blague. Voilà. Donc, rumeur en tant que telle, c'est pas mauvais, mais tu sais, on comprend rapidement que, ben, c'est ça. Les politiciens, c'est tous des cons. Ils servent à rien, puis ils réussiront jamais rien. Fait que, ben, c'est ça. Ces 7-là, ce G7-là, sont pas super bons. Ils ont mis une première ministre britannique noire, ce qui était peut-être le plus inusité dans le casting, parce que ben, ils n'ont pas en ce moment de première ministre noire. C'était un premier ministre indien qui était là. Puis sinon, ben, il y a une parodie de Joe Biden aussi avec Charles Dance qui dort parce qu'il est vieux. Puis il fait des jokes de « Ah, oh, je suis assez vieux, ça n'a pas de bon sens d'être vieux de même », etc., etc. Fait que c'est ça, il y a des échos avec les vraies personnes. Bon, chancelière allemande, elle n'est plus là, mais il y en a eu une longtemps, Angela Merkel, puis Roy Dupuis dans le rôle de Justin Trudeau, parce que Justin Trudeau, il est donc beau, puis Roy Dupuis, il est donc beau. Puis ils ont à peu près le même âge, le mi-cinquantaine, fait que c'est ça le lien, mais... Roy Dupuis avec les cheveux longs en tant que premier ministre du Canada. C'est un peu étrange, un premier ministre avec les cheveux longs. Mais tu sais, le Canada, on est tellement plus lousse qu'ailleurs dans le monde. Fait que voilà. C'est ça, c'est une critique acerbe de la politique, disons ça comme ça. Mais voilà, est-ce que ça vaut la peine d'être sur le grand écran? Si on est fan du genre, peut-être, mais sinon, on peut attendre que ça passe à la télé. Ce ne sera pas plus grave. C'est là que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service, ici même, sur les ondes de CFAX, sur les ondes de Chiz. À la semaine prochaine. Salut.